La Torah expliquée. Un regard juif sur la Bible. Une émission proposée par le magazine Le Berger d'Israël.
Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission La Torah expliquée. Je vous en rappelle rapidement le principe. Benjamin Wagner, journaliste protestant, pose des questions sur la Torah auxquelles répond Guy Attia, directeur du Berger d'Israël.
Bonjour Guy.
Bonjour.
Alors, la vie des patriarches nous avait laissé des indices plutôt insoupçonnés au sujet du Messie. Et très franchement, d'Abraham à Jacob, sans oublier Joseph, je ne m'attendais vraiment pas à découvrir autant de subtilité dans ce que Dieu voulait communiquer au sujet du profil du Messie. On commence d'ailleurs à en distinguer un petit peu les contours de ce Messie. En entrant maintenant dans le livre de l'Exode, faut-il s'attendre à d'autres surprises ou grandes révélations ?
Oui, alors, évidemment, pour les grandes révélations, on verra bien, mais il est clair que dans le livre de l'Exode, on entre à présent dans une sphère un peu différente de celle qu'on a connue dans le livre de la Genèse, le livre qui précède. Alors jusqu'à présent, on était resté essentiellement dans le cadre de l'alliance avec Abraham. Le dialogue de Dieu avec les hommes était plutôt direct, plutôt individuel. Et là, les signes donnés par Dieu au sujet du Messie à venir s'inscrivaient surtout dans la vie des patriarches eux-mêmes, dans leurs expériences, ou encore dans le cadre du récit historique, comme par exemple avec la vie de Joseph. Les bénédictions prophétiques des patriarches étaient aussi l'objet d'un message messianique dont les auteurs n'avaient pas forcément idée. Alors là, avec l'Exode, on a certes encore Moïse comme figure emblématique du livre, mais fondamentalement, on est passé à l'échelle d'un peuple. Le livre tout entier de l'Exode est l'histoire d'une rédemption. Moïse est, d'ailleurs de l'avis de tous les rabbanim, l'archétype du Messie qui vient sauver son peuple. Nous connaissons bien ce récit épique de la sortie d'Égypte, les 10 plaies et la traversée de la mer Rouge. D'ailleurs, qui n'a pas vu le grand film avec Charlton Heston incarnant Moïse qui fait face à Yul Brynner, le pharaon intransigeant. Mais il y a bien évidemment plus que simplement les images bien connues hollywoodiennes.
Oui, alors justement, quel est le premier passage de l'Exode dont nous allons parler aujourd'hui ?
Eh bien, dès les premiers chapitres, on perçoit bien la transition entre le récit plutôt confidentiel d'une famille de taille modeste, celle d'Abraham, et puis la réalité nouvelle d'un peuple très nombreux. En fait, nous ne devrions pas être totalement surpris par cette réalité. Le récit de la sortie d'Égypte, avec tout ce qu'il comporte, est en lui-même l'accomplissement d'une prophétie que Dieu avait déjà annoncée à Abraham. Souvenez-vous, en Genèse 15, verset 13, « L'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront des immigrants dans un pays qui ne sera pas le leur. Ils y seront esclaves et on les maltraitera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation dont ils auront été les esclaves, et ils sortiront ensuite avec de grands biens. » Alors avec le livre de l'Exode, on assiste en quelque sorte à la première réalisation du plan prophétique de Dieu. D'un côté, le récit est un accomplissement de ce qui était annoncé aux patriarches. De l'autre, il annonce une réalité qui transcende l'histoire.
Pour la prophétie d'Abraham et sa descendance, je vois bien, mais en quoi le récit est en lui-même une annonce qui transcende l'histoire immédiate des Israélites ? Dites-nous en plus.
En fait, le livre de l'Exode ne porte pas exactement le nom du récit qu'il occupe pourtant pour l'essentiel. Le nom du livre est le mot « Shemot » en hébreu, le pluriel du mot « Shem ». Et donc, on peut traduire le nom du livre par « les noms ». Et il commence ainsi. « Ve'ele Shemot bnei Israël ». Voici les noms des fils d'Israël. Les premiers versets sont comme le chaînon qui permet de relier l'histoire passée au présent et bien entendu au futur. 400 ans ont passé et les Israélites ont peut-être perdu de vue la perspective de leur histoire. Les patriarches sont morts depuis longtemps, leur vie est certes encore un modèle pour tous, mais celui-ci commence déjà à s'estomper. Alors comment les choses vont-elles trouver leur place dans ce puzzle prophétique de Dieu ? La Pâque et la sortie d'Égypte sont-elles en soi des accomplissements ? Ou laisse-t-elle augurer une suite prophétique encore à venir ? En clair, quels sont les moyens qui nous sont donnés pour faire la part des choses entre l'annonce prophétique et son accomplissement ? Moïse est-il le Messie annoncé dans la Genèse, ou n'est-il lui-même que le prototype de celui qui vient ? Pour les Israélites, comme pour les Juifs d'aujourd'hui, le livre de Shemot est d'abord le récit de leur histoire, de leur libération. Le récit fonde leur existence. Il est comme un témoignage de leur attachement initial au Dieu créateur des cieux et de la terre. Les patriarches avaient d'ailleurs eux aussi fait leurs expériences en la matière. Donc le livre de Shemot passe simplement à une autre échelle. Faut-il comprendre de ce récit qu'une leçon éthique ou historique, ou y a-t-il plus à retenir ou à interpréter ?
Je suppose qu'il y a évidemment plus à retenir de ce récit archi-connu, si je peux m'exprimer comme ça, de la sortie d'Égypte.
En effet, le Midrash, les commentaires rabbiniques, discernent dans ce passage plusieurs niveaux d'interprétation et parfois même assez surprenants. Mais curieusement, certains aspects du texte restent ignorés ou minimisés par les commentateurs juifs. Du côté des chrétiens, on en reste la plupart du temps surtout à la dimension éthique et historique. Peut-être que le film bien connu y est peut-être pour quelque chose. Le spectaculaire occulte aisément les aspects prophétiques. Cependant, la plupart des commentateurs chrétiens font le pont entre la Pâque et l'agneau offert en sacrifice pour la rédemption des Israélites et bien entendu la mort en sacrifice de Jésus pour le salut de l'humanité. Il y a donc indiscutablement une portée prophétique et messianique dans le récit qui ne doit pas nous échapper. Mais nous allons cheminer, si j'ose dire, pas à pas dans notre récit. Alors, pour l'immédiat, en tout cas, nous n'irons pas tout le texte, mais seulement quelques passages emblématiques. Et vous pouvez suivre ces textes à la maison. Nous allons commencer justement donc au tout début du livre, donc Exode chapitre 1, verset 1, qui a tendance d'ailleurs un peu à échapper au lecteur, bien souvent. « Voici les noms des fils d'Israël qui étaient venus en Égypte avec Jacob. Chacun était venu avec toute sa maison, Ruben, Siméon, Lévi, Judas, Issachar, Zabulon, Benjamin, Dan, Nephtali, Gad et Aser. Ceux qui étaient issus de Jacob étaient 70 en tout. Joseph était alors en Égypte. Joseph mourut ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Les Israélites furent féconds, ils proliférèrent, se multiplièrent et devinrent de plus en plus forts. Et le pays en fut rempli. Un nouveau roi qui n'avait pas connu Joseph vint à régner sur l'Égypte. Il dit à son peuple, « Le peuple des Israélites est plus nombreux et plus fort que nous. Agissons donc avec sagesse à son égard, de peur qu'il ne se multiplie. S'il survenait une guerre, il se joindrait à nos ennemis pour nous faire la guerre et monter ensuite du pays. » Alors, ces premiers versets sont en quelque sorte une transition entre la fin du livre de Béréchit, donc la Genèse, et le livre de Shemot, donc l'Exode. Il s'écoule cependant plusieurs siècles entre la fin glorieuse de la Genèse où Jacob, enfin réuni avec toute sa famille, s'installe en Égypte et retrouve même Joseph, son fils, devenu entre-temps intendant, premier intendant d'ailleurs de l'Égypte, dans les circonstances que l'on connaît. D'une famille au demeurant modeste en importance, on passe à une autre échelle, celle d'un peuple qui atteint une taille considérable. Et même, selon les termes du verset 7, un peuple qui remplit le pays. De la prospérité d'Israël à la fin de Béréchit, on passe à une situation des plus terribles, catastrophique même. Les Israélites sont réduits à un dur esclavage. Les temps ont vraiment changé depuis l'époque de Joseph, mais comme on a déjà pu l'évoquer, cet esclavage avait été annoncé à Abraham longtemps auparavant et la délivrance prophétisée bien avant qu'elle ne se produise. Cette prophétie annoncée avant qu'elle ne se produise est d'une grande importance dans la lecture des événements. Par ailleurs, les nombres ont une valeur symbolique et prophétique indiscutable et les commentateurs ne s'y attardent pas tous de la même manière. Cet épisode du début de la délivrance du peuple soumis à l'esclavage en Égypte est marqué par la visitation de Dieu et l'œuvre de rédemption d'Israël réalisée après avoir été annoncée prophétiquement à Abraham. Le nombre de personnes composant la famille de Jacob, citée dans l'Exode, est de 70. Mais cela ne semble pas tout à fait exact. Pourtant, à cette époque, cette erreur pourrait plutôt être improbable. Le livre des Actes, au chapitre 7, verset 14, donne, lui, le chiffre de 75. Ça fait donc une différence notable de 5 personnes.
Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre de ce décalage ?
Il nous faut creuser un peu plus le sens symbolique des nombres dans la Bible. 70 symbolise, dans la tradition prophétique, la globalité du genre humain, ce qui permet de comprendre que cette rédemption miraculeuse de Dieu, qui est l'objet des chapitres suivants, touche prophétiquement tout le genre humain et pas seulement Israël. Au-delà du récit connu de la libération d'Israël et de l'esclavage en Égypte, le texte vise en réalité à présenter la rédemption de tout le genre humain, symbolisé ici par le nombre 70. C'est du reste l'une des options retenues par le Maharal de Prague, qui était un éminent commentateur à Prague au Moyen-Âge, tout comme d'ailleurs, sous une autre forme, par Rashi lui-même, qui a aussi vécu au Moyen-Âge. En effet, pour le Maharal de Prague, le conflit entre Israël et le pharaon d'Égypte dépasse le simple cadre historique et géographique du moment. Il illustre, je dirais même davantage encore, il prophétise au sujet d'un conflit d'ordre spirituel entre Dieu et le Satan. On en oublie parfois que le récit n'est pas que l'énoncé d'une libération des Israélites de l'esclavage. Il est aussi celui d'un jugement terrible contre les forces du mal et du diable. Et là encore, le Midrash raconte l'étonnante histoire suivante. Pharaon avait eu un rêve qui l'avait terrifié. Il était assis sur un trône et un vieil homme se tenait devant lui tenant une grande balance dans laquelle il avait attaché et mis tous les grands dignitaires du royaume. Sur l'autre plateau, il mit un agneau blanc qui fit fléchir le poids de son côté. Étrange histoire, n'est-ce pas ? Une histoire qui place au cœur du conflit spirituel un agneau que l'on peut supposer être l'agneau pascal dont il sera question un peu plus tard dans le récit de la sortie d'Égypte. Le rêve du pharaon n'est pas non plus sans rappeler ceux interprétés quelques siècles plus tôt par Joseph. Souvenez-vous, Joseph était porteur d'un message de rédemption pour toutes les nations et nul ne pouvait obtenir de salut sans s'adresser à lui pour sa nourriture. Toute l'Égypte s'est trouvée allégoriquement, en quelque sorte, et très concrètement aussi d'ailleurs, soumise au pharaon d'alors. Mais cette fois-là, c'était pour son salut. Ici, dans le Midrash, le pharaon ne joue pas le même rôle. Il est le symbole d'une opposition franche et délibérée contre Dieu. Le parallèle avec le contexte de Joseph est ici aisé à faire et montre clairement que notre récit ne va pas concerner uniquement le peuple d'Israël, mais une dimension bien plus large. Tandis qu'Israël représente symboliquement l'humanité déchue que Dieu veut racheter au moyen d'un agneau, Moïse, lui, incarnera l'archétype du libérateur et sauveur messianique.
Notre méditation du livre de l'Exode, du livre de Shemot, donc, s'annonce passionnante. Malheureusement, cette émission touche à sa fin pour le moment. On poursuivra dans 15 jours avec un autre texte de la Torah. Et je vous rappelle encore une fois que l'intégralité de ces textes est disponible sur le site internet du Berger d'Israël, lebergerdisraël.com, www.lebergerdisraël.com. Au revoir Guy.
Au revoir.
Merci Guy et merci Benjamin. Je vous rappelle, chers auditeurs, que les thèmes développés et les questions posées dans cette émission sont disponibles sur le site internet www.lebergerdisraël.org. Rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode de la Torah expliquée.
C'était la Torah expliquée. Une émission qui vous a été présentée par le magazine Le Berger d'Israël.